merci d'être présent pour cette rencontre de cette journée libre. Nous accueillons aujourd'hui un auteur incontournable de la science-fiction anglo-saxonne de ces dernières années, Ian MacDonald, qui sera traduit.
Let's try that again.
Veuillez accueillir s'il vous plaît Monsieur Ian MacDonald. Qui sera traduit pour notre plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir de nos oreilles francophones, par Victoria Orange. Alors quand je dis que Ian MacDonald est un auteur incontournable, je pèse mes mots, c'est un auteur qui. Vous avez écrit combien de livres jusqu'à présent?
People who just can't be content with the way the world is right now. I have to be always ask them questions about it.
Oui, en fait, je suis une de ces personnes, je ne peux pas me contenter du monde actuel, je dois toujours poser des questions sur le monde.
And by the way, I've just realized that in my profile picture in the book, I'm wearing the same t-shirt.
Bien, il se rend compte que dans le petit livre que vous avez reçu, c'est le même t-shirt.
Which shows that even when I'm science fiction, I have no imagination.
Donc, même que j'écris la science fiction, j'ai aucune imagination.
Et donc avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter un extrait de Desolation Road, plus précisément le troisième chapitre du premier roman de Yann Verdonel, qui est aussi le premier à avoir été publié en France, l'extrait qui nous sera lu par Sophie Bourrel.
La tempête était proche maintenant, et la ferro-goélette fuyait toute voile dehors, cherchant à mettre un maximum de kilomètres entre elle et le bouillonnant nuage de poussière brune. 3 jours durant, elle avait fui devant la tempête. 3 jours depuis le matin où grand-père Aran avait tourné son œil gauche, son œil météo, vers l'ouest, et avait remarqué la teinte ocre sale qui nimbait l'horizon. « C'est un sale temps qui nous arrive !» avait-il dit. Et le sale temps arriva, et de plus en plus près, si près des pionniers que même Raël Mandela, affligé du don de pragmatisme, se rendit compte qu'il était impossible de le distancer et que l'unique espoir pour les membres de sa famille était de trouver quelque refuge avant d'être englouti par la poussière. « plus vite » cria-t-il. Et grand-père Aran et la douce et belle Eva Mandela, épouse mystique lourdement enceinte, déployèrent jusqu'au dernier carré de voile, jusqu'à ce que la ferro-goélette vibre et chante sur l'acier des rails infiniment rectilignes. La mâture grinçait, les amarres claquaient et strigulaient, l'engin roulait et oscillait sur ses bogies. Dans le fourgon, les chèvres et les lamas bêlaient de terreur et les cochons ruaient des 4 pattes contre les barreaux de leur cage. Et derrière, des vagues de poussière brune déferlaient de partout et les serraient de plus en plus près. Une fois de plus, Raël Mandela maudit sa décision irréfléchie de faire traverser le grand désert à sa femme, son père et un enfant à naître. 4 jours plus tôt, à Murchison Flats, le choix avait été simple. Basculer le levier de l'aiguillage dans un sens enverrait les membres de sa famille vers le sud, dans les terres colonisées du Deutéronome et du Grand Oxus. Le basculer dans l'autre sens les enverrait dans le grand désert pour gagner de là les territoires inoccupés de l'argile septentrionale et du transpolaire. Il n'avait eu alors aucune hésitation. Il s'était plu à se voir en audacieux pionnier, défrichant des terres nouvelles et construisant son propre pays de ses propres mains. Il avait fait preuve de fierté. Et voilà donc comment il en était puni. Ses cartes et plans étaient inflexibles. Les topographes Rotec n'avaient signalé aucune habitation sur 1000 km le long de cette ligne. Une sèche rafale saisit la grande voile et la déchira par le milieu. Abasourdi, Raël Mandela contempla les lambeaux de toile qui claquaient au vent. Puis il donna l'ordre de choquer les écoutes et de serrer au plus près. Avant même qu'il ait terminé, 3 autres voiles se déchirèrent en claquant, comme des coups de feu. La ferro-goélette trembla et perdit un peu de son élan effréné. Puis Eva Mandela se leva, chancelante, agrippée à un cordage vibrant. Son ventre se gonflait dans l'imminence de l'enfantement, mais ses yeux regardaient au loin, et ses narines étaient aussi ouvertes que celles d'un cerf effarouché. Il y a quelque chose là-bas, dit-elle, d'une voix qui s'insinua sous les hurlements du vent et des cordages. Je sens comme une odeur, quelque chose de vert et qui pousse par là-bas. Aran, toi qui as l'œil pour ce genre de choses, qu'est-ce que tu vois ? Grand-père Aran braqua son œil météo sur l'alignement géométriquement parfait des rails. Et au milieu des tourbillons de poussière et du voile atmosphérique qui présageait la tempête, il aperçut ce qu'Eva Mandela avait repéré à l'odeur. Une tache de verre végétal, accompagnée d'une haute tour métallique et de quelques capteurs solaires en forme de losange. « C'est habité !» s'écria-t-il. « Une colonie ! Nous sommes sauvés !» Donnez de la voile, rugira El Mandela, tandis que les lambeaux de voile lui sifflaient aux oreilles. Encore de la toile ! Grand-père Aran sacrifia l'antique bannière familiale tissée dans la plus fine soie de New Meryonid, avec laquelle il aurait fièrement proclamé le règne de son fils sur la contrée au-delà du désert. Et Eva Mandela sacrifia sa robe de mariée crème en organdi et ses plus beaux jupons. Raël Mandela sacrifia 6 feuilles d'irremplaçable plastique solaire, et le tout fut hissé en haut du mât. Le vent saisit la ferro-goélette, lui donna une petite secousse, lui fit faire un petit bond, et la famille frontalière des Mandela, qui ressemblait plus à un carnaval itinérant pris sous une trombe d'eau qu'à des pionniers en quête de terres nouvelles, fonça sur les rails jusqu'au refuge. Le docteur Alimentado et M. Géricault avaient vu la ferro-goélette de très loin, alors qu'elle n'était qu'une raclure d'étoffes multicolores pourchassée par le front de la tempête. Ils avaient bravé les premières rafales tiraillantes des trombes de poussière pour replier hermétiquement les délicats pétales des capteurs solaires et rétracter les filiformes antennes et les paraboles dans la tour relais. Tandis qu'ils s'affairaient, la tête et les mains enturbanées d'étoffes épaisses, la plainte du vent s'enfla jusqu'à devenir un hurlement sans réplique et l'air s'emplit de grains de poussière comme autant d'aiguilles volantes. Dès que la ferro-goélette eut freiné dans un furieux torrent de hurlements, de crissements et d'étincelles, le docteur Alimentado et M. Géricault se précipitèrent pour décharger le fourgon. Ils travaillaient avec la synchronisation silencieuse et désintéressée d'hommes qui n'ont connu qu'eux-mêmes pendant une longue période d'isolement partagé. Eva Mandela trouva leurs gestes mécaniques et infatigables plus effrayants. Bétail, racines, semences, outillages, machines, matériaux, tissus, articles de ménage, clous, vis, peintures et épingles, chargés, déchargés, chargés, déchargés, le tout sans prononcer une parole. Mais où allons-nous mettre tout ça ? Hurla Raël Mandela. Le docteur Alimentado lui fit signe d'un doigt emmailloté et le conduisit dans une grotte chaude et bien sèche. Celle-ci pour vous et la grotte communicante pour votre matériel. À 17h-17, la tempête de sable se déchaîna. Au même moment, Eva Mandela entra en travail. Tandis que sa robe de mariée, ses jupons, la bannière familiale et 6 feuilles de précieux plastique solaire s'envolèrent dans l'atmosphère, dans un tourbillon assez fort pour râper les chairs d'un homme à même l'os, elle poussa, poussa encore, avec force hoquée et gémissement, poussa et poussa dans la tiédeur de la grotte bien sèche à la lueur des chandelles de suif. Poussa et poussa, poussa et poussa encore avant d'expulser 2 enfants braillards dans le monde. Leurs vagissements initiaux se perdirent dans le massif vagissement de la tempête. Quelques grains de sable rouge se déposèrent au seuil de la grotte, dans la lumière jaune des chandelles vacillantes. Raël Mandela empoigna son fils et sa fille. « Lima !» dit-il à l'enfant dans sa main droite. « Tasmaïn !» dit-il à l'enfant dans sa main gauche. Et ce faisant, il leur infligea sa malédiction, si bien que son fils reçut son rationalisme droitier et que sa fille reçut le mysticisme gaucher de sa femme. Ils furent les deux premiers citoyens natifs de Desolation World, et leur citoyenneté entraîna celle de leurs parents et de leurs grands-pères, car, avec deux petits-enfants encore nourris au sein, il n'était plus question de faire force de voile jusqu'au pays au-delà du désert. Ils restèrent donc pour toujours et ne trouvèrent jamais le pays au-delà des montagnes que tous les Mandela cherchent depuis cette date, parce qu'ils savent que Desolation Road n'est toujours qu'à un pas du paradis et qu'ils ne veulent pas en rester là.
It never sounded that good whenever I wrote it.
Oui, j'avais pas l'impression que c'était si bon quand je l'ai écrit.
C'était donc le troisième chapitre de votre tout premier roman, Desolation Road, par lequel vous invitez donc vos lecteurs à suivre la naissance, la vie, et je n'en dis pas plus, d'une petite colonie martienne perdue le long d'une interminable voie ferrée dans le désert. Mars est ressemble un peu à une figure obligée de la science-fiction. Votre Mars se trouve, je pense, à la croisée des deux grandes écoles de science-fiction. En Mars, il y a d'un côté la Mars poétique et romantique de Bradbury, par exemple. Et de l'autre côté, la Mars scientifique et rationaliste de Arthur Clarke, Kim Stanley Robinson. Et votre façon de ne pas choisir finalement entre les deux écoles vous amène à vous rapprocher avec ce premier roman d'un tout autre courant, et on ne peut s'empêcher de penser à Gabriel García Márquez notamment et à ses 100 ans de solitude en lisant ce Desolation Road.
Of course, yes. This entire book is full of things I stole from other people, really.
Oui, tout le livre entier, en fait, il s'agit des choses que j'ai volées d'autres personnes.
Yeah, I stole and remixed into something which hadn't quite been seen before.
Oui, je les ai piquées, je les ai volées, et puis je les ai remélangées d'une autre façon qui n'a jamais été vue avant.
Yeah, so, in a sense, I mean, this was my first novel, and I was kind of playing with career suicide here.
Oui, dans un sens, c'était mon premier roman, et quelque part, je jouais avec le suicide professionnel.
Because rather than do kind of a straightforward guns blazing science fiction novel.
Oui, plutôt que faire juste un roman de science fiction très typique. Dans tous les sens.
I did a South American magic realist novel set on Mars.
Donc j'ai décidé de faire un roman sud-américain qui se situe en Mars.
Because at some level, I can't take myself terribly seriously.
À un certain niveau, je ne peux pas me prendre au sérieux.
Likewise, because I can't take myself seriously, I tend to play games with everything around me, so I can't take everything else seriously either.
Donc, puisque je ne peux pas me prendre au sérieux avec tout ce qui m'entoure, je ne peux pas me prendre au sérieux non plus.
Because at some level, writing is a ridiculous thing to do.
Quelque part, écrire, c'est quelque chose de ridicule.
Because you sit in a room and you make up shit. And somehow people pay for this stuff.
On est assis dans une pièce, on crée des merdes quelque part, et on invente des merdes, et les gens payent pour ça.
And I am sure that every single writer here at this festival has this fear, this deep down nagging fear.
Oui, je suis sûr que tous les écrivains ici à la Comédie du Rire, par exemple, ils ont une peur profonde.
Yep. And that fear is that someday somebody will come up and tap them on the shoulder.
Quelqu'un va venir un jour les tapoter à l'épaule.
And they'll say, exactly what have you been doing for all these years?
Qu'est-ce que vous avez fait depuis des années? Qu'est-ce que vous faites?
Yep, but we just have to say, making shit up.
Et tout ce qu'il y a à dire, c'est en créer un inventé de merde.
Yep, we all have that. Every one of us has that deep insecurity somewhere.
Tous les écrivains ont cette espèce d'insécurité en...
So, in a sense, I kind of conceived Desolation Road as a joke.
Donc, quelque part, la conception, l'invention de Desolation Road, c'était une espèce de blague.
Yeah, and it was a joke that actually people took seriously, I guess.
Et c'était une blague que les gens ont pris au sérieux.
Yeah, and I'm still getting away with it as well.
Et je continue de faire pareil, je continue à...
Non, ça, ça pour être une blague, il y a quand même un trait qui ressort de ce roman parmi d'autres, parce qu'on ne va pas s'attarder non plus sur cet unique roman. Un trait qui traverse l'ensemble de votre œuvre, c'est la mythologie. En l'occurrence, l'émergence d'une mythologie spécifiquement martienne. Est-ce qu'elle s'est imposée? Est-ce que vous avez travaillé? Comment ça s'est passé?
Yeah. Good question. People think of science fiction as a very rational. Having a very kind of rational mindset, being very scientific and very hard.
Oui, quand on prend, les gens pensent que la science-fiction c'est quelque chose de très planifié, que les gens y approchent avec beaucoup de rationalité.
Yeah. But my way of thinking has always been that every human culture has always had this deep layer of irrationality and mythology in it as well.
Mais selon moi, tous les cultures humaines, ils ont aussi une couche de mythologie aussi très profonde.
I mean, if you look at the world today, I mean, here we are in a pretty high-tech society, but at the same time, irrationality, I mean, has not been so prevalent maybe for 50, 60 years.
Oui, si on regarde le monde actuel, où il y a pas mal de technologies, par exemple, l'irrationnel, ça fait juste 50, 60 ans que ce n'est plus si de l'actualité.
Yes, the mythology, yeah. So, if I'm going to write about even a fictional future rather than a possible future, I want to write about it from top to bottom.
Si je vais écrire sur un avenir même fictionnel, ce que je veux y faire, c'est que je vais l'écrire d'en haut jusqu'en bas.
So it will be about the things which people believe as well as the things that they actually do in their lives.
Donc il va s'agir des choses que les gens croient et aussi ce qu'ils font dans leur vie.
The mythology in Desolation Road is it's actually drawn from the music of David Byrne. Talking Heads
fait. En fait, la mythologie dans le livre Desolation Row, ça vient en fait de la musique de David Byrne, Talking Heads.
Yeah, particularly, he did an album with Twilight Farm called Songs from Gaffendale, and that and an album called My Life in the Bush of Ghosts.
Donc il y avait deux albums en particulier qui m'a inspiré, c'était Catherine Weir et
My Life in the Bush of Ghosts.
My Life in the Bush of Ghosts.
Yeah, and strangely enough, I actually derived mythology from American post-punk music.
Et aussi l'influence de la mythologie, c'est venu aussi de la musique américaine post-punk.
This is true.
Et donc après Desolation Row, votre, je crois que c'est votre troisième roman, Roi du matin, Reine du jour, là s'attaque à la mythologie irlandaise. C'est un roman qui traverse tout le XXe siècle irlandais, qui en trois parties, une partie dans les années 10, une partie dans les années 30, une partie dans les années 80. Et le fil directeur de ce roman, c'est la mythologie celte et son rôle dans la construction de l'imaginaire collectif irlandais.
This was when kind of dance music was starting.
Et c'était l'époque où la musique danse commençait.
Yeah. And at those times, this was when sampling records and remixing sources into dance music was just about starting.
Oui, c'était l'époque où on prenait des morceaux d'autres musiques et on les mixait ensemble, mélangeait ensemble pour créer d'autres musiques.
So I kind of wanted to do that for Irish mythology, because it's about how our mythology is always changing, how we're always reshaping it, and how it is also reshaping us.
Oui, c'est quelque part ce que je voulais faire avec la mythologie irlandaise, comment la reformer, et ça nous reforme aussi par la suite.
So I have a massive amount of stuff. It started life as a story, which is part of the very earliest part of the book, which is set in 1913.
Oui, j'avais beaucoup de différentes sources, différentes informations. Ça a commencé la première partie du livre, c'est une histoire.
And that bit is based on it was a real event in the 1920s called the Cottingley Fairies.
C'était basé sur un événement réel, un vrai.
It was a series of photographs taken in the 1920s of children with fairies in the garden.
Donc en fait, il s'agit d'un série de photographies prises dans les années 20 et dans les photographies, on voyait des enfants avec des fées dans les jardins.
These photographs, if you see them now, you can find them online on Google, and they're incredibly fake. But they convinced Sir Arthur Conan Doyle that they were real.
Oui, vous pouvez les trouver sur Google, par exemple, sur l'internet, même maintenant. Et quand vous les regardez, ils ont, ça se voit que c'est pas des photographies vraies, mais ils ont convaincu des personnes, même Sir Arthur Conan Doyle, par exemple.
I mean, this is the guy who invented Sherlock Holmes.
C'est lui qui a inventé le Sherlock Holmes.
And by 1922, he was completely gaga.
Et en 1922, peut-être, il était complètement fou.
I was just interested in how someone could be so taken by something so fake.
Ce qui m'intéressait, c'était comment quelqu'un peut être si convaincu par quelque chose qui est très faux. On voit que c'est faux.
And kind of the whole thing comes spun off from there. The basic premise is it's about three generations of women.
Donc en fait, après le livre s'est écoulé de ces notions-là. En fait, le livre il s'agit de trois femmes.
They all share a common ability, which is that they can tap into the collective unconscious.
Oui, ils partagent la même capacité, ils sont capables de joindre l'inconscience collective.
They can tap into the collective unconscious and make it enter the real physical world, but they have no control over what happens.
Oui, ils peuvent se lier, joindre cette inconscience collective et la rendre
yes, yeah.
Et peuvent le rendre réel, ils peuvent le mettre dans la vie réelle.
Yep.
Mais ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne peuvent pas le contrôler par la suite.
One of them is destroyed by the power, one of them makes a deal with the power, and one of them fights the power.
Oui, il y a une qui est détruite par le pouvoir, il y en a une qui fait une espèce de marché avec le pouvoir, et un autre qui elle se bat avec le pouvoir.
It's funny because I wrote this book in 1990. I was at a festival a couple of years back when it came out, and somebody asked me about the ending of it.
Oui, je l'ai écrit en 1990 et j'étais à un festival comme ici il y a quelques années et quelqu'un m'a posé des questions sur la fin du livre.
It was a big kind of metaphysical question about the ending of the book.
C'est une question très métaphysique sur la fin du livre.
And I couldn't remember what happened.
Et je m'en souviens plus ce qui s'est passé.
Not a bit.
Rien de tout. Yeah.
However, I now remember what happens in the book.
Cependant, maintenant ça va, je m'en souviens.
The thing I like best about this book is the third part is really 1990.
Oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que la troisième partie, c'est vraiment 1990.
Pour finir avec le droit du matin et du jour, au cours d'une rencontre précédente, plutôt dans l'après-midi, j'ai entendu l'un des intervenants s'étonner qu'un livre bien écrit puisse être de la science-fiction et non pas de la littérature. Il se trouve que les trois parties de ce livre se passent donc à trois époques différentes du XXe siècle, trois époques marquées par un style différent, et vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez réussi à rendre, à mon sens, le style des années 10, le style épistolaire des années 10, le courant de conscience des années 30, et un style beaucoup plus moderne, proche du cyberpunk pour les années 80. Ça vous a demandé beaucoup de travail.
Yeah, it's more literary games in this book, actually.
Oui, il s'agit des jeux littéraires dans le livre.
The first part is written as a kind of an epistolary novel. Done in letters and diary, I'm sure.
Ok, donc la première partie, c'est plutôt un roman épistolaire, merci. C'est dans la forme de journal intime et de
and
des lettres.
The first part opens, now this again is more career suicide, but the first one opens with a deliberately bad poem.
Ok, donc la première partie, et ça peut être encore un peu, il s'agit de suicide de carrière professionnelle, mais ça commence avec un poème particulièrement mauvais.
I mean, it's supposed to be a really bad poem written by a 14-year-old.
C'est censé être un poème très très mauvais écrit par un enfant de 14 ans.
And about 3 or 4 years back, I got an email from an American woman.
Et il y a que 3 ou 4 ans, j'ai reçu un mail d'une femme américaine.
And she said, I love your book. I love the poem. I had it read at my wedding.
Et elle a dit, j'aime beaucoup votre livre, j'aime beaucoup le poème. Quelqu'un l'a lu à mon mariage.
So that's one wedding heading for the rocks, I suspect.
C'est un mariage particulier.
Yeah, anyway, the second part is kind of jokes about Irish writers like Samuel Beckett, James Joyce. There's lots of kind of literary jokes in there.
Oui, la deuxième partie, il y a beaucoup de blagues littéraires sur des écrivains irlandais comme Samuel Beckett et James Joyce.
Yep. It's also got my favorite characters in the entire book, who are two tramps.
Oui, il y a aussi mes deux personnages préférés du livre entier. Il s'agit de deux clochards.
Yeah, they're called Tiresias and Gonzaga, and they work a kind of urban magic with kind of leftover bits of rubbish. And I actually really like those guys.
Oui, j'aime beaucoup ces deux-là. En fait, ils font une espèce de magie urbaine avec les restes de déchets.
And then the third part is set in 1990, and I wrote it in about 3 weeks. It's the easiest thing I ever wrote. It just went straight to the air.
Oui, la troisième partie, c'était la partie qui est basée dans l'année 1990. C'était la partie la plus facile. Je l'ai écrite très rapidement en 3 semaines.
Do you have urban fantasy here? Oh yeah, it's kind of like I've heard it described as kind of an early form of urban fantasy.
Oui, on m'a dit que c'est une espèce de fantasy urbaine. Oui.
Yeah, so you know who to blame? It's me.
C'est moi qui est le coupable.
Sachant que la fantasy urbaine est le genre qui actuellement domine les littératures de l'imaginaire en France. Du point de vue du lecteur français, alors ce livre a été publié en 1991. Du point de vue du lecteur français, c'est votre avant-dernier livre, puisqu'il a été publié en France seulement en 2010. Il a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2010, et il a été suivi immédiatement après par Le Fleuve des Dieux, qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2011, pour rester logique.
Which is great, thank you very much.
Merci
beaucoup. I like professors.
Ce n'est que l'un de vos nombreux romans qui s'intéresse à des cultures différentes. Entre temps, il y a eu Brésil aussi, qui s'intéresse, comme son titre l'indique, au Brésil. Qu'est-ce qui vous pousse à amener la science-fiction sur le terrain de cultures qui ne soient pas occidentales, hein, assez rare pour ce genre particulier?
Yeah, because science fiction is very much a white man's literature, actually.
Oui, c'est ça. C'est la science-fiction, c'est vraiment la littérature de l'homme blanc.
And it's usually male North American attitudes and philosophies that are expanded in science fiction.
Oui, donc souvent, il s'agit des attitudes, des philosophies, des hommes. De l'Amérique du Nord.
And there are huge parts of the world which have been kind of overlooked as kind of settings for science fiction.
Oui, il y a des grandes parties du monde qui n'ont pas été choisies pour l'écriture de science fiction.
Particularly Americans, most Americans don't know that India exists.
Oui, les Américains, par exemple, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que l'Inde existe.
Yeah. If you ask an American what Asia is, they will think China or Japan. Mm.
Si on demande à un Américain qu'est-ce que c'est l'Asie, il va dire la Chine, le Japon.
Yeah, I mean, and there's an awful lot of Asia which isn't China and Japan.
Et bien sûr, il y a une grande partie de l'Asie qui n'est pas Chine ou Japon.
And I'd read some articles about this book. Well, actually, this book took 5 years to kind of create.
Oui, en fait, ce livre, ça m'a pris 5 ans pour le créer.
And in 1999, I'd kind of read some articles about how India was a rapidly developing nation.
Oui, et en 1990, j'avais lu pas mal d'articles sur l'Inde et le fait que c'était une nation qui se développait très rapidement.
And everyone was talking about, oh, you know, the future is going to be Chinese. You know, China is the great place. It's all about China and Chinese stuff. Mm. And I kind of thought, well, no, actually, you know, I mean, don't ignore India. Mm.
Oui, tout le monde parlait de la Chine, que qu'on croit la Chine, ça allait être l'avenir et tout. Et je me suis dit, non, il ne faut pas oublier l'Inde.
Here is a country which is the world's largest democracy by a long way.
Oui, c'est un pays qui est la plus grande démocratie du monde, de loin.
You know, that has a very strong tradition of education and expertise in mathematics and science.
Oui, qui a une tradition très longue d'expertise dans les domaines de des sciences et des mathématiques.
And also has an astonishing social divide between those who have money and those who do not have money.
Et il y a un énorme écart, une énorme différence étonnante entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas de l'argent.
Yeah. And this was the time when Western companies were outsourcing businesses to India because they could get educated people very, very cheaply.
Oui, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'entreprises occidentaux qui avaient commencé à délocaliser beaucoup vers l'Inde parce qu'ils pouvaient avoir des employés éduqués pour pas cher.
And it all comes back to mythology as well. I mean, you have one of the world's great religions, Hinduism, which Westerners never really quite understand or come to terms with how Hinduism really works.
Oui, et aussi, pour revenir à la mythologie, il y a bien sûr l'hindouisme, et en Occident, on a beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne.
Yeah. So, there's all this fantastic stuff happening, but there was one key thing, which was nobody had written this book before.
Donc il y avait tout ça, toutes ces choses merveilleuses, et puis bien sûr une chose très importante, c'est que personne n'avait écrit ce livre avant.
Yeah, and I thought, this is so obvious, how come no one's thought of this?
Et ça me paraissait tellement évident, pourquoi personne n'avait pensé à ça?
So I went and wrote it.
Donc je l'ai écrit.
And I get lots of nice kind of reviews and emails from Indian readers and reviewers.
Oui, j'ai reçu beaucoup de mails et de revues, enfin de critiques très sympathiques des personnes en Inde, des Indiens.
Yeah, and it's usually they say two things. First of all, it's not bad for a white guy.
Deux choses. Déjà, tout d'abord, que c'est pas trop mal pour un blanc.
And the second thing they say is, damn it, I wish we'd thought of this first.
Et en deuxième lieu, ils disent, ah oh, zut, j'aurais bien pensé à faire pareil.
But there is actually, in India and China, they do, science fiction is a growing genre. More and more people are writing it and selling.
Ceci dit, en Chine et en Inde, il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à écrire la science-fiction. C'est un domaine qui est en plein essor.
Yeah, so it took 5 years from the initial launch with my publisher and an agent to the book actually kind of appearing in print. So.
Oui, donc ça m'a pris 5 ans pour l'écrire du moment où j'ai déjeuné avec mon agent jusqu'à que c'était imprimé.
On arrive, il ne nous reste plus qu'un petit quart d'heure, donc comme je voudrais quand même vous donner la parole à toi aussi, avant de pouvoir échanger un petit peu avec Yann McDonald avant de partir. Je voulais vous demander, vous avez exprimé à plusieurs reprises dans des interviews le fait de vous intéresser aux marges du progrès, aux marges des sociétés humaines, parce que selon vous, c'est là que se joue l'avenir. Et la question qui vient donc derrière, c'est est-ce que pour vous, l'Europe et les cultures occidentales peuvent, risquent de redevenir une marge ? Est-ce que vous risquez de revenir dans les sociétés occidentales pour vos prochains rendez-vous ?
I've written about huge cities and big mega cultures and things like that.
Oui, j'ai pour répondre à la question, j'ai écrit déjà sur les grandes villes des mégapoles.
Yeah, and the book I'm writing at the moment, I've completely turned my back on, and I'm looking at very very small cultures.
Et actuellement, ce que j'écris actuellement, j'ai complètement tourné le dos à ce que j'ai écrit avant et j'écris sur une toute petite culture.
Yeah, so I'm the project I'm working on at the moment starts in London, but it goes to Iceland.
Donc le projet sur lequel je travaille actuellement, ça commence à Londres, mais après on part à l'Islande.
Iceland, there are 320,000 people in Iceland. That's what
it is. Island, la population de l'Islande, c'est 320,000 personnes.
Yeah, but they have two symphony orchestras, a ballet, an opera company, Björk, Sigurdos, all that.
Beaucoup de culture, deux orchestres symphoniques, Björk.
Sigurdos.
Sigurdos.
Mom. So. How do they do it with, you know, with only 320,000
people?
Yeah, so I'm going to write about Iceland and also the culture of the South Pacific because they have even fewer people.
Donc je vais écrire sur l'Islande et puis aussi la culture du Pacifique du Sud parce qu'ils ont même moins de personnes d'habitants.
Yeah, I mean, so very much there are kind of places on the edge, but I think the edge is where the interesting things happen.
Oui, c'est effectivement des endroits, des lieux qui sont aux marges, et à mon avis, c'est là où les choses intéressantes se passent.
Merci. Alors, avant de laisser la place à ton parc, c'est ce que quelques-uns parmi vous auraient quelques questions à poser à Ian McDonald.
Je voulais savoir, pour l'écriture comme un roman comme Le Club des Dieux, est-ce que vous avez été amené à voyager en Inde justement?
Oh yes. I was going to say.
It's all right.
Oh. Yeah, that's better. We'll swap. Yeah, I was going to say, if I write about somewhere, I always have to go there, but that's a bit of a problem with Mars. But generally, because the stuff you only know if you go there and see it. I will give you an example.
Oui, effectivement, je suis allée en Inde. Je pense que c'est toujours très important d'aller dans le pays sur lequel on écrit. Bien sûr, c'est difficile avec la planète Mars, Mais sinon, j'essaie toujours d'aller voir parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas si on n'y va pas.
A thing I would not have known when I went to India is the really, really obsessed with underwear ads on the sides of walls. Huge painted advertisements for men's underwear everywhere.
Par exemple, quelque chose que j'aurais pas su si j'avais pas été en Inde, c'est qu'ils ont une obsession avec les publicités pour les sous-vêtements. Et il y a des publicités pour des sous-vêtements d'hommes partout peints sur les murs. Quelque chose de très étonnant.
There are things you can only see in India that you would not see anywhere else. I mean, I saw, actually it was in Nepal, I saw a doctor harvesting the corneas from a corpse.
Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas voir si on n'y va pas. Par exemple, à Népal, j'ai vu un médecin qui prenait qui enlevait des cornets d'un corps mort.
And if you don't go there, you won't see that kind of thing. Now, I didn't use that bit in the book, but it kind of, you know, it affects the way you think about things and how values in a society work.
Oui, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé dans le livre, mais si on n'y va pas, si on voit pas, on n'a pas une atmosphère, on n'a pas une notion de tout le pays.
Bonjour. Je pense que cette rencontre touche à sa fin. Nous vous remercions d'être venu écouter Ian MacDonald. Merci à Victoria Orange pour la production. Merci à Sophie Sorel pour la lecture. Et surtout merci à Ian MacDonald d'être venu. Si vous souhaitez prolonger un petit peu la rencontre, Ian MacDonald sera à nouveau sur le stand et invité juste derrière pour un petit moment.
Thank you.